Merci beaucoup, Françoise, donc pour ce panorama. Alors, je m'interrogeais sur ce que tu dis à propos de la colonialité du genre. Alors, tu le dis dans ton livre, hein, tu te réfères notamment à cette idée qui a été développée donc, par l'anthropologie féministe décoloniale, sur notamment dite africaniste, si on peut dire, Oyeronke, Oyewumi, pardon. Et qui effectivement dit que c'est l'Occident d'une certaine façon, en tout cas la philosophie européenne, qui a mis beaucoup l'accent sur la différence de sexe et la production des différences de sexe à partir d'une économie du visible. Elle dit, il y a un paradigme prégnant en fait dans la manière dont on appréhende les sexes, les individus en Europe, c'est qu'on voilà, c'est à partir des saillies du visible. Donc de la différence anatomique, etc. Bon. Et alors que dans, chez les Yoruba, dit-elle précisément, ce qui importerait le plus, c'est les sexes métamorphiques de l'invisible, etc. Bon. Mais je me demandais, alors donc, du coup, effectivement, donc là, il y a vraiment une déconstruction du genre, et cette idée qu'il y a eu un apport colonial du genre, c'est-à-dire autant de la construction de la différence, des sexes. Je me demandais, du coup, dans quelle mesure est-ce que plutôt que de... Tu dis qu'il y a une domination en fait de la rhétorique du genre, etc. Est-ce que aussi cette rhétorique du genre dans les ONG, bon, par Bill Gates, y compris par l'ONU, dans toute forme de politique finalement qui serait dite attentive à la question de la promotion des femmes égalité, est-ce que c'est pas une forme de blanchiment du genre, en blanchiment au sens cette fois-ci de dépolitisation, de déradicalisation du genre qui n'a rien à voir avec le genre tel que Butler le pense, etc. Et qui se réduit simplement en fait. Aux femmes, en fait, c'est la promotion des femmes, et contre les hommes. Donc, ce serait plutôt une... Parce que je me dis, c'est un peu la même chose pour l'intersectionnalité, en réalité. Il y a une forme aussi de promotion qui commence, l'intersectionnalité, etc., qui oublie complètement la dimension, qui peut oublier complètement la dimension raciale, etc., et qui s'en sert simplement, qui dit, voilà, je vais faire un croisement entre l'âge et le sexe, et puis on oublie, c'est une dépolitisation finalement de notions qui au départ quand même sont critiques d'une certaine, certaine façon.
Oui, on a tout, maintenant nous devons toutes être féministes, nous devons toutes parler du genre, bientôt, moi ça fait 5 ans que je dis il va y avoir une exposition à Beaubourg, art décolonial, et puis on pleurera. Parce qu'on n'aura pas, on croit que quelque chose va échapper. Je pense que rien ne va échapper à cette extension. Je pense que la colonisation, au sens de colonisation, d'appropriation et de dépossession, est au cœur de ce système dans lequel nous vivons. Donc c'est plus nécessairement la colonisation de terre ou de, c'est vraiment tous les de prendre le vocabulaire et beaucoup plus rapidement qu'avant. Ça c'est vrai, beaucoup beaucoup plus rapidement. Parce que malgré tout, pendant des années, plein de femmes ne se sont pas dit féministes. Plein. Et aujourd'hui, tout le monde peut se le dire, extrême droite, tout le monde est féministe. Et tout le monde veut la défense du genre, qui veut dire les femmes. Donc c'est vrai qu'on peut se dire, comme tu le dis, comment redonner à tous ces termes dont on nous dépossède, comme on a dépossédé les peuples de leur terre, de leur langue, comment on se réapproprie ces termes pour réactiver, pour leur redonner leur dimension radicale et radicale. En même temps, si tu veux, la question du genre me semble parfois... le genre, on sait qu'elle est arrivée parce que, justement, dire femme ou dire sexe faisait pencher vers la notion de biologie. Et puis, qu'est-ce que c'est que les femmes? Est-ce que ça existe, etc. Toute cette question. Et de dire que le genre, c'est construit et qu'on peut aussi avoir toute cette question de fluidité. Et je suis tout à fait, évidemment, en accord avec ça, mais je me demande jusqu'à quel point... Est-ce que finalement il n'y a pas aussi, puisque ces reconfigurations elles se font à tout moment, mais il n'y a pas aussi une reconfiguration de ce que sont des femmes et des hommes aujourd'hui qui, d'une manière, demanderait aussi à ce qu'on réadapte ces notions de genre. Donc ce n'est pas simplement de redonner au genre ou au terme femme, etc., une dimension radicale, c'est de voir comment est produite la catégorie femme aujourd'hui et ces catégories de genre aujourd'hui. Dans un monde où les conditions ont énormément changé les 20 dernières années. Donc, comment parler de ça, comment définir ce qui se passe et comment sont produits aujourd'hui ces êtres humains déchets, et comment racialisation et sexualisation ou genreification, je sais pas comment on dit, gendering, interviennent dans ces nouveaux processus. Donc, pour moi, de toute façon, si tu as les mots comme ça, c'est utile, mais c'est plutôt comment est-ce qu'ils me permettent d'analyser ce qui se passe. Donc, comment sont produits les genres aujourd'hui? Moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'à peine, je ne sais pas, il y a 2 mois, j'en parle dans le livre, il y a aussitôt un magasin qui s'est ouvert à New York pour Fluid Body, Fluid Gender. Et je me dis, mais on n'a même pas fini de dire le mot, qu'il y a déjà un magasin. Alors évidemment, avec tous les produits qui vont avec, hein, je me dis, par exemple, le genre non-binaire, c'est déjà toute une mode. Il y a toujours une production de mode. Alors évidemment, on peut se dire, ben voilà, ça va trop vite, c'est la récupération. Et en même temps, comment garder, c'est ce que tu dis, comment garder cette dimension qui rend fertile ces notions, quoi. Le genre, je ne sais pas. Le genre, j'ai de plus en plus de mal, parce que c'est surtout, ce n'est pas tellement ici. Hein. C'est que quand je suis dans le sud global, j'entends des paroles tellement normées.
Sur le genre.
Oh, tellement conformistes. Il y a un vocabulaire ONG, mais qui est absolument effrayant. Mais effrayant. Mais comme je n'ai pas beaucoup d'imagination, je n'ai pas trouvé un autre mot. Hein. Je ne suis pas du tout du genre à trouver les machins comme ça. Simplement, je suis plutôt du genre à trouver que ça ne va pas. Mais bon. Voilà. Et à essayer de faire, d'analyser une situation sans utiliser trop ces mots. Quoi. Parce que parfois, j'ai l'impression que ça va me... Sur la question du nettoyage, je me disais, bon, alors je vais dire le genre... Qu'est-ce que ça... J'arrivais pas à voir comment ça m'a aidé, mais enfin, je veux bien le dire, hein, si c'est comme ça qu'on va me comprendre. Mais pour moi, quand j'essaie de comprendre comment ça se passe, je vais avoir plutôt... Je vais quand même réutiliser le terme femme, qui est quand même aussi très questionné. Mais parce que je m'intéresse à comment on fabrique un poste des travaux, des places qui sont attribués à des personnes qu'on appelle femmes, pour justifier ça. Mmh. Je ne sais pas si je t'ai répondu.
Si, d'une certaine façon. Mais, oui, je comprends, mais finalement, ça revient quand même à utiliser, disons, tout l'appareillage critique sur le genre, sans employer le terme, parce que justement, il s'était réapproprié par les...
Oui, en fait, c'est plutôt faire l'effort de cette analyse et de voir si le mot,
oui, convient, oui.
Si le mot est utile.
Il n'y a pas de fétichisme.
Voilà, c'est le mot. J'ai pas de, c'est pas parce que je vois genre, je vais pas me rouler par terre de rage, mais je ne veux pas que ça appauvrisse la pensée, que ça nous rende paresseuses. Bon, les premières questions, je ne pourrais pas dire la première question. Les premières questions, alors très rapidement, féminisme de totalité ou autre, si vous voulez, moi ce qui me... C'est toujours un peu ce que je disais avec Aurien. C'est en fait, la question c'est comment faire une analyse chaque fois multidimensionnelle. Est-ce que quand je regarde un objet, j'ai vraiment tiré tous les fils? Est-ce que je n'ai regardé que la question des femmes racisées qui font du nettoyage simplement comme une question, ben voilà, elles sont exploitées, elles sont écrasées parce qu'elles sont racisées, qu'elles sont femmes, et que voilà, c'est elles qui font le nettoyage. Et mais finalement, peut-être que demain, des robots le feront et tout ça sera terminé. Et alors que, qu'est-ce que ça pose comme question? Donc effectivement, le féminisme de totalité, il est peut-être tronqué parce qu'il ne pense pas à ceci, cela. Mais ce qui m'importe le plus, c'est les questions des méthodes d'analyse aujourd'hui. Je trouve qu'on est face à des choses tellement énormes, je veux dire, de dévastation de la planète et des êtres humains, qu'il me semble que chaque fois, je me dois de me demander, mais qu'est-ce qui raccorde à quoi? Comment c'est relié toujours de manière pour essayer de comprendre comment ça a été produit? Donc, patriarcat, capitalisme, si on veut, si ça nous aide, c'est toujours la même chose, hein, si ça nous aide à penser les choses, moi, c'est ça, c'est pas tellement les mots. Alors, la religion, moi, j'ai toujours des problèmes avec, quand on dit la religion, je sais pas laquelle, est-ce qu'on parle des hiérarchies, est-ce qu'on parle de la structure, est-ce qu'on parle des personnes qui croient et qui s'engagent dans des... rituels tous les jours, tout ça, et qui, pour qui c'est aussi une forme de vie, de culture. Moi, je ne vois pas simplement la religion comme quelque chose d'un soutien du patriarcat. Je ne vais pas tellement raconter d'anecdotes personnelles, mais enfin, j'étais au Salvador pendant le pays Salvador pendant la guerre civile et reçue par des femmes, une organisation de femmes qui s'appelait Femmes pour la dignité et la vie. Et elles nous ont demandé de venir avec elles à des messes, parce qu'elles faisaient des messes pour les personnes qui étaient en prison et torturées. Moi, j'y suis allée. Je veux dire, pour moi, ça ne posait aucun problème d'aller là. Ça ne me posait absolument aucun problème de participer à ça. C'était pas parce que, je veux dire, j'étais en face, il y avait un prêtre qui disait des choses, je ne comprenais pas tout, mais peu m'importait. Je veux dire, c'est la même chose quand j'étais aussi dans d'autres pays, on m'a demandé de venir à la mosquée. Ben, je ne vois pas la religion comme ça. Je fais pas, pour moi, ce n'est pas la religion, n'est pas une forme de, nécessairement de domination. Il y a des choses, évidemment, il y a des hommes, mais de dire ça, j'ai un peu du mal. Alors, la traite des femmes et la pornographie, je préfère passer ça, non pas parce que, mais parce que ça nous entraînerait beaucoup plus loin. La question de producteur de déchets humains, est-ce que c'est utile? Oui et non. Je pense qu'il y a des rapports aujourd'hui du Pentagone, par exemple, hein, qui prévoient, parce qu'ils travaillent toujours dans le futur, hein, dans le qu'est-ce qui va se passer dans 50 ans, etc. Et qui, par exemple, analyse énormément la question du changement climatique. Et une des raisons du fameux mur avec le Mexique n'est pas simplement pour arrêter les migrants et la drogue, comme dit l'autre aujourd'hui, mais pour prévoyant les réfugiés climatiques et prévoyant le fait que l'Amérique du Nord peut être autosuffisante, Canada et États-Unis. On les ressources énergétiques, on suffit des plaines, des montagnes, des fleuves, enfin toute une série de climats qui permet des tas de cultures différentes, et que donc ça peut s'enfermer. Il y a des perspectives aujourd'hui dans certains think tanks ou dans autour aussi les armées occidentales pensent beaucoup aux guerres, disent que les prochaines guerres vont être les guerres autour du climat et qui font donc se protéger. Et donc l'idée que des millions de personnes peuvent mourir est tout à fait envisagée. Elles ne sont même pas pensées comme utiles, nécessairement. On peut les laisser mourir. Et d'ailleurs, on voit des tas de situations aujourd'hui où on laisse mourir les personnes. Dans les guerres, on les laisse. Je veux dire, tous les jours, il y a des personnes qui meurent dans la Méditerranée. On les laisse mourir. Et l'été prochain, des millions d'Européens se précipiteront sur les rives de la Méditerranée avec leurs enfants pour jouer au ballon. On leur apprendra à nager avec des petites bouées et dans une mer qui est remplie de cadavres. Et on fera de la voile et on pêchera des poissons qu'on fermentera sur le barbecue. Et sera effacée la vie, les corps de ces milliers de femmes et d'hommes et d'enfants qui ont été transformés en petites particules qui flottent maintenant dans la Méditerranée. C'est effacé. Ouais. Donc, plutôt que de... Je pense qu'il faut absolument envisager... Je pense qu'on ne peut pas sous-estimer la brutalité du système. Et sa cruauté. Il ne faut pas. Il ne faut pas nécessairement penser... Regardez même quand vous pensez l'esclavage. Et on dit tout le temps l'esclavage. Mais l'esclavage, il y avait un taux de mortalité extrêmement important. À la fois sur les bateaux négriers et dans les plantations. Au début, dans des premières années, des décennies, pardon, l'espérance de vie est de 8 à 10 ans sur une plantation. Ça veut dire qu'on sait que ça va... Ben, c'est rien, 8-10 ans. C'est rien du tout. Il y en aura d'autres. Ils peuvent mourir. Et tous les enfants, tous les millions d'Africains qui ont été versés dans le ventre de l'Atlantique, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Il y avait des assurances sur les cargaisons, comme on disait. Et d'ailleurs, la naissance des assurances est en relation avec le taux de mortalité, puisque c'est couvert, puisque vous perdez de la propriété, vous perdez de la cargaison, vous pouvez être remboursé sur la cargaison perdue. Il y a tout un système qui s'installe. Je pense qu'il faut envisager, je pense que le système colonial, impérialiste et capitaliste racial repose sur des millions et des millions de cadavres dont on ne connaît même pas les noms, qui ont disparu. Donc je pense que la mort est absolument accompagnée profondément ce système avec vraiment un sentiment d'inutilité de ses vies. Il ne faut pas penser vraiment que, par exemple, même les esclaves, quand on dit, mais les propriétaires, ils devaient vouloir garder leur... Mais ils les torturaient, ils les... à vif, ils les brûlaient vifs. Les femmes étaient violées. À 22 ans, il avait déjà eu 7 ou 8 enfants. C'est pas la question de pas l'utilité. Je pense que peut-être le terme d'utilité, il faut qu'on y fasse attention. De penser que c'est utile ou pas utile. C'est qu'est-ce qui va rapporter du profit? Qu'est-ce qui fait profit? Obstacles et enjeux au féminisme décolonial en France. Bon, les enjeux sont énormes. Parce que si on veut décoloniser la société et le monde, on a du travail, mais il faut s'y mettre de toute façon. Et puis, on s'appuie sur toutes les générations auparavant qui ont fait tout leur travail. Donc, on est à un moment assez, quand même, je trouve, enfin, je ne sais pas ce qui se passera, moi je ne lis pas dans l'avenir, mais on est à un moment assez privilégié d'une certaine manière, parce qu'il y a eu une énorme production de pensée, une énorme production filmique, cinématographique, musicale, philosophique, etc., sur ça, sur ces questions-là. On hérite de tout ça. Et on est dans une situation extrêmement difficile, extrêmement dure, et qui exige justement un effort de pensée. Et c'est... Donc, ça... C'est intéressant parce qu'on n'a pas le temps de somnoler, donc c'est vraiment... Enfin, moi, je trouve ça passionnant. Je trouve ça très difficile, très dur, très éprouvant, mais en même temps, c'est un moment, je trouve, vraiment de réflexion profonde, quoi, parce que tellement de choses se posent en même temps, mais il y a aussi beaucoup de références, de sources qui peuvent nous aider. Les obstacles en France même, bon, bah alors d'une part, c'est la question, le refoulement profond de la question dite raciale, de la question de la race. Ouria Bentouami faisait remarquer plus tôt que, cet après-midi, que enlever la notion de race dans la Constitution, et elle a été remplacée par la notion de sexe. Hein. Donc là, encore une fois, c'est donc la question des femmes, évidemment. Parce que quand on dit ça, on pense à l'égalité des femmes, qui vient effacer la question de la race. Et donc, comment les deux sont liés n'est jamais évidemment mis en lumière. Moi, je pense que c'est vraiment cette question de comment la colonie, hier et aujourd'hui, a contribué à la construction du monde dans lequel nous vivons. Et comment, si on veut dépasser cela, l'obstacle, c'est vraiment comment la colonie a contribué à construire la France dans laquelle nous vivons aujourd'hui, hein, pas celle d'hier, hein, celle d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est de la colonialité républicaine? Qu'est-ce qui fait la colonie? Quand on parle de colonialité républicaine, on parle de quoi? De la violence de l'État, du racisme d'État, du fait que la République française est quand même un des rares États en France à posséder autant de territoires à travers le monde, dans tous les coins du monde, qui en fait quand même de ce tout petit pays la deuxième puissance maritime dans le monde, qui lui permet d'avoir des bases militaires partout, d'avoir de la recherche scientifique, on oublie très souvent ça, dans des lieux extrêmement différents, donc qui lui permet d'avoir une recherche scientifique autant sur les milieux de l'Amazonie que les coraux de Kadaki, etc., etc., qui peut continuer à piller des ressources, comme on le voit avec la montagne d'or en Guyane ou d'autres exemples, hein, ou le nickel en Kadaki, Nouvelle-Calédonie. C'est une république qui est encore profondément assise sur ce qui reste peut-être de son empire colonial, mais c'est pas rien ce qui reste. C'est aussi un endroit quand même où les grandes compagnies françaises peuvent avoir des contrats fabuleux, puisque de toute façon ce sont des pays captifs, elles ont pas tellement, on leur a pas demandé, je veux dire les Outre-mer, on leur demande pas tellement leur avis. C'est aussi un pays profondément traversé par une forme de... par une gauche révolutionnaire, une extrême gauche révolutionnaire, qui s'est très peu posé la question coloniale et raciale, à part quelques exceptions, chez des anarchistes, chez des trotskistes, chez les situationnistes, ici et là, mais profondément, qui ne s'est pas posé la question. Et particulièrement, comme je le disais, les féministes françaises. Mais presque les féministes françaises aussi, qui étaient pour les luttes de classe, etc., qui se posent très très rarement à la manière de penser la lutte des classes, comment ça a été racialisé. comment la lutte des classes refoule profondément des luttes. Pourquoi, quand on parle de l'histoire du travail et l'histoire des luttes dans le travail, ça commence avec l'usine. Ça commence avec l'usine et la classe ouvrière française. Pourquoi ça ne commence pas avec les révoltes des esclaves dans les plantations? Pourquoi la plantation n'est pas conçue comme un monde de travail? On le sait que la plantation, la manière dont l'architecture de la plantation a été mise en place, a été un modèle pour les architectures du capital en France au moment de la grande, ce qu'on appelle la révolution industrielle. C'est-à-dire, la plantation, c'était la maison du maître, les moulins, les cases des esclaves. Et donc, le moulin était vraiment important, puisque c'est là qu'étaient apportées les cannes pour railler, etc. Enfin, tout. Et puis, il y avait des ateliers pour réparer les moulins ou les charrettes, enfin, des tas de choses. C'était très organisé, c'était pas comme n'importe quoi, c'était très organisé. Et le modèle a été repris, puisqu'on voit la maison de l'ingénieur, l'usine, le village des ouvriers et ouvrières, et même donc l'épicerie faite par le propriétaire, par le... l'industriel, pour que les ouvriers... Et ce sont des... il faut qu'on voit à quel point cette société a été construite et continue à se construire à travers cette colonialité. Donc les obstacles profonds aujourd'hui à la question des coloniales, on le voit aussi, l'Université de Toulouse a été attaquée parce que voilà, il y a des espèces d'indigénistes qui sont en train de mettre à bas cette forteresse de la pensée. Et c'est pareil partout. Il y a de vrais intérêts, à la fois idéologiques, des intérêts économiques, des intérêts politiques. Et ces intérêts idéologiques reposent sur cette idée de préserver absolument la suprématie blanche. Cette idée que quand les féministes, ces féministes veulent aller sauver des femmes ailleurs, ça, c'est évidemment. Ça renforce l'idée de soi. Je suis quand même, moi, je sais ce qui est bon pour les femmes. Vous rendez compte, je suis quand même super intelligente, hein, je peux aller leur dire. Et cette idée aussi de dépolitisation constante des questions, c'est ce que tu disais profondément. Alors, je vais raconter une anecdote quand même, je vais faire plaisir un peu. Le ventre des femmes, que certains d'entre vous ont lu, a déclenché un désir chez beaucoup de gens qui font des documentaires d'en faire un. Donc, je suis contactée par 25 000 personnes. Et alors évidemment, j'en rencontre. Je me perçois, bon, celui-là, il veut juste faire un grand machin. Ça ne m'intéresse pas. Il est totalement macho, tout ça. Moi, je ne pourrais même pas supporter de passer une heure avec lui. L'autre, je ne sais pas quoi. Et puis, je reçois un contact d'une femme qui dit « Je suis une féministe. J'aime beaucoup ce que vous faites, tout ça. Et je fais des films. Je voudrais faire. » Alors, je lui dis « Tiens, bon, pour une fois. » Et donc, je lui dis, ben voilà, voyons-nous. Et elle m'envoie, avant notre rendez-vous, un long mail où elle me dit, je voudrais toutes vos adresses à l'île de Réunion, puis quels étaient vos contacts, etc., etc. Enfin bon, bref, elle me transforme en documentariste, quoi, ce qu'on appelle une documentariste. Ou native informant. Hein, je lui dis, ben écoutez, on ne se verra pas. Et là-dessus, j'apprends que quand même, elle fait son... Elle poursuit son projet. Mais enfin bon, je vous résume, il y a 10 jours... On m'envoie deux pages qui ont paru dans un journal à l'île de Réunion, où elle est allée faire son documentaire, et où elle explique qu'en fait, elle voulait faire une histoire humaine. C'était sur le plan humain qu'elle voulait montrer cette histoire. Parce que Françoise Hergès, c'était quand même trop féministe et trop politique. Et donc, Françoise Hergès avait oublié les personnes, les femmes, les êtres humains. Et donc, elle allait montrer ces êtres humains. Ce qui voulait dire, en traduction, hein, je traduis, un film totalement dépolitisé, du total whitewashing. De la femme blanche qui va interviewer ces pauvres femmes transformées en victimes totales, de méchants messieurs blancs, etc. Et plus aucune analyse de la structure coloniale, plus aucune analyse de la suprématie, plus aucune analyse de l'économie, pourquoi ça se passe à ce moment-là. Et voilà, et donc finalement... Et que cette histoire avait été connue depuis tout temps, que je m'en suis emparée. Enfin, je veux dire, de nouveau, un espèce de récit en train de se faire, que c'est moi qui en ai profité, de ces pauvres femmes qui étaient victimes, etc., pour faire avancer mes thèses décoloniales. Ce que je veux dire par là, c'est la question du whitewashing et la question de l'effacement, elle est constante, elle arrive constamment. Il faut constamment quand même aller contre... Je veux dire, il y a eu un moment, bon, ce livre, quand même, c'est vrai, oulala, on avait oublié ça, waouh, qu'est-ce que c'est ça. Et puis quand même... Bon, il ne faut pas laisser cette interprétation quand même. Il faut quand même rattraper ça et remettre cette histoire dans un récit pacifiant, et pacifier dans un récit qui va effacer et qui va mettre les femmes comme victimes, que quand même la République va reconnaître. Parce qu'elle va reconnaître qu'elles ont été victimes. Donc la République restera généreuse. Elle ne sera pas mise en cause. C'est comme un, trois bonhommes qui ont exagéré et qui ont usurpé de leurs droits. C'est-à-dire cette division aussi entre une France qui est une République qui sait ce que c'est que les droits et des gens qui là-bas trahissent les principes et les valeurs de la République et qui est un récit comme ça de deux espaces au cœur du récit républicain, au cœur de la colonialité. Ça s'est passé là-bas par des gens qui ont trahi les valeurs et les principes. Ici, ce sont les principes continuent à justement faire entretenir cette colonialité. C'est externalisé. Ce n'est pas au cœur. Ce n'est jamais au cœur de la République. Une République qui s'est faite dans la colonie et dans l'empire colonial. Moi, j'ai intitulé un féminisme parce que je ne voulais pas dire le féminisme. Je veux dire, il y en aura d'autres. Il y a certainement d'autres féminismes décoloniaux. Je trouve qu'il faut être très clair là-dessus, ne pas vouloir. Un mouvement, il y a des mouvements, il y a des féministes décoloniaux partout dans le monde. J'ai cité l'Argentine, le Brésil, l'Inde, le Maroc. En France aussi, des groupes réfléchissent. Il va y avoir certainement des divergences. Tout ça. Celui que je défends et avec lequel je me sens en accord avec d'autres femmes, je pense, dans le monde, c'est vraiment un féministe radicalement antiraciste, anti-impérialiste et anti-capitaliste racial. Et de fait, anti-patriarcal. De fait, parce qu'il n'y a pas... Et c'est un féministe qui veut aussi, la question de changer la situation des femmes, mais vraiment l'émancipation de toutes et de tous, quoi. Un monde un peu moins cruel et brutal. Et puis un monde un peu moins dévastateur. Un système, moi je suis frappée par la dévastation. On la sent moins en Europe, parce que l'Europe est plus protégée. Mais dès que de voyager, vous voyez la dévastation qu'apporte... C'est vraiment une dévastation. Je veux dire, il y a des peuples entiers qui sont absolument menacés aujourd'hui par des dévastations de ces systèmes. Ou vraiment aussi, le néolibéralisme, il faut aussi comprendre, il est absolument cette idée de que le marché doit tout réguler, que je suis moi-même un capital, que tout ça, ça doit être de mon désir qui se passe. C'est vraiment résister à tout ça. Résister, en ce moment je m'intéresse à la surproduction et le fait que le commerce éthique, vaudrait mieux laisser tomber, hein, parce que bon, ouais, c'est peut-être bien d'acheter du café bio, mais ça ne résout pas du tout la question de la manière dont les plantations, enfin du fond des choses, quoi, de cette surproduction au niveau mondial qui entraîne des profondes dévastations. Donc pour moi, alors le colonial à l'intérieur de la France, modernité, tradition, question féministe à Paris, moi j'en sais rien si ça se passe, j'ai pas l'impression qu'il y a un truc de Paris, de toute façon ça se passe, je sais pas ce qui se passe vraiment à Paris même, je pense qu'il y a pour l'instant il y a beaucoup de mouvements partout, quoi, et qui à tous ces niveaux font des choses. Pour moi c'est autant, il y a des expériences de coopératives, il y a des expériences, je sais pas, c'est vraiment, en fait toute la question c'est la construction de l'autonomie. Comment on peut construire et préserver une autonomie dans un monde qui justement bouffe tous les espaces d'autonomie les uns après les autres? Comment préserver ça? Comment construire? Comment aussi... Moi, je m'intéresse aussi beaucoup à la question de l'éducation, hein, mais pas l'école, hein. Mais la question de l'éducation. Comment transmettre? Comment transmettre? Comment faire en sorte que je n'entende plus de jeunes qui disent « Mais mes parents ont baissé la tête, ils n'ont rien fait », de dire « Mais non, ils ont toujours lutté ». Pouvaient être fiers, la France ne laisserait pas se caler sans leur combat, c'est eux, ils sont toujours battus. Sur la question modernité-tradition, je pense que c'est une opposition totalement factice, évidemment, qui participe pour moi de la mission civilisatrice. Qu'est-ce qui est moderne, qu'est-ce qui est traditionnel? La question traditionnelle, c'est chaque fois, comme par hasard, les pays du Sud, les minorités qui sont traditionnelles, et comme par hasard, la modernité, elle est du côté des cadres blancs de la classe moyenne. Je veux dire, il ne faut quand même pas nous prendre pour des imbéciles, quoi. Donc cette opposition de modernité-tradition, de toute façon, la modernité s'est construite sur la, dans la destruction, évidemment, de cette modernité européenne. Hein, pas, et pour moi, alors, sinon, c'est vrai qu'il y a la question de la colonialité du genre, par exemple, ou la question de la coloniale, elle se déroule à des moments en Europe et dans la colonie. En Europe, c'est ce que Silvia Federici propose dans Caliban et la sorcière, c'est qu'il y a la destruction des communs en Europe, donc la propriété privée qui s'étend, la chasse aux sorcières, qui est effectivement la discipliner des femmes, fortement, remettre du genre, hein, vraiment, et la traite négrière qui se passe dans les, en même moment. Et elle met en relation ces trois événements comme des événements qui sont effectivement dans un énorme effort de discipliner et aussi de racialiser. Bon, moi, je pense qu'il faut aussi rajouter tout ce qui s'est passé comme racialisation beaucoup plus dans son analyse, mais c'est ce qu'elle propose. Donc, ces constantes de manière de discipliner ce qui se passe ici et ce qui se passe ailleurs, oui, il faut les étudier. Quand on pense à 1871, la Commune de Paris, on oublie très souvent la grande insurrection d'Al-Mokrani en Algérie, qui sera écrasée aussi plus tard, et que les communards et les insurgés kabyles passent dans les mêmes tribunaux militaires et seront envoyés en exil en Kanaky-Nouvelle-Calédonie dans les mêmes bateaux. Et que l'effacement, c'est-à-dire le fait que ce soit la révolution prolétarienne qui est absolument présentée comme la plus belle et la plus grande, et moi j'admire énormément la commune et communard, j'ai écrit dessus, mais l'effacement de cette autre énorme insurrection qui va être écrasée dans le sang et le feu, et qui, quand elle va être écrasée, 500 000 hectares sont pris dans la nuit même aux tribus algériennes et donnés aux Alsaciens et Lorrains qui fuyaient les Prussiens. Dans ce mouvement circulaire et le mouvement qu'on envoie à la Kanaky-Nouvelle-Calédonie, c'est cette question de ces formes de colonialité qui s'imbriquent ou qui se croient, qui se coordonnent. Mais c'est pas ça se passe d'abord ici, ça se passe là-bas. Il y a une réflexion, mais il y a aussi une constante réflexion sur le blanchiment, même des révolutionnaires. Puisque ce sont des révolutionnaires de 1830 et 1848 et 1871 qui sont envoyés en Algérie et qui vont devenir des colons. Ou de communards, certains communards vont se ranger du côté des colons en Kanaky. Et quand la grande révolte d'Ataï émerge, l'insurrection en 1878, certains communards, sous la promesse d'une amnistie, vont se joindre aux armées de la répression. Donc comment on fabrique constamment, comment on blanchit les luttes, comment on construit constamment du consentement, c'est ça la colonialité. Et donc comment ça circule de la Bretagne à l'Algérie, en revenant par la Nouvelle-Calédonie pour revenir à Madagascar, pour revenir ici. Oui, c'est comme ça qu'on doit peut-être voir comment les choses circulent. Et la dernière chose, le rattrapage. Mais il y a deux choses. D'un côté, faut laisser faire, quoi. C'est parfois... C'est comme on ne va pas discuter avec certaines personnes, quoi. Par contre, c'est comment on construit de l'autonomie, comment on construit ces choses et comment on les préserve, comment on se protège, comment on marronne, comment on construit des utopies, comment on continue chaque jour. Ils ont une, je veux dire, le système néolibéral a une volonté de tout coloniser, mais on voit bien qu'il n'y arrive pas non plus et que c'est pour ça qu'il réprime, qu'il entre en corruption avec des gouvernements pour obtenir une grande partie de l'Amazonie, une grande partie du fleuve. Mais on voit que ça résiste, si vous voulez. Et là, le grand désir, c'est d'arrêter toute dissidence, de criminaliser toute dissidence. On le voit dans ce pays-là où nous vivons aussi. Mais on voit que ça résiste. Je pense que il y a, c'est dans les pratiques que se trouve chaque fois la radicalité, pas dans les mots nécessairement. Les mots aident, si j'ai besoin de dire un féminisme décolonial, ben je peux le dire. Et si le soir même j'entends ça à TF1, je me dis « waouh, bon, mais le lendemain je sais ce que je fais ». C'est plutôt ça, c'est savoir, c'est dans la pratique se construit de la théorie. Enfin, je dis une chose absolument tellement banale que j'ai presque... Bon, enfin bref. Sexe, race et colonie. Alors, c'est intéressant à analyser. Excusez-moi. excusez-moi, je suis déshydratée. Est-ce qu'on peut faire passer la bouteille au fond pour qu'elle me revienne près? C'est gentil. Voilà, coopération. Coopérons pour que celle qui parle ne finisse pas à soi vraiment déshydratée. Je vous remercie. Donc, Saxeras Colony. Alors, vous savez qu'on a été, j'ai fait partie des personnes qui ont été invitées à contribuer. On était beaucoup. Il y avait Elsa Dorlin, le Grand Maison, Tracy Chapman, enfin des tas de copains et de copines. On n'a jamais vu le livre. On nous a jamais présenté le livre dans sa mise en page, dans ce qu'il serait. Alors ça, c'est une première chose. Mais ce qui est important à voir, c'est que tout le dispositif est un dispositif extrêmement racial, colonial, sexiste. Je sais même pas si ces mots sont suffisants. C'est un dispositif très pervers. Il y a d'abord, il n'y a pas une seule spécialiste de l'image qui écrit un texte. Or, il y en a énormément qui ont travaillé sur les images racialisées. Il y a pas, c'est des historiens, mais les historiens, ça ne veut pas dire que vous connaissez, vous pouvez analyser l'image. Il n'y a pas d'historien d'art. Le statut des images n'est pas explicité. Il y en a qui sont sur deux pages, il y en a qui sont tout petits. On ne sait pas pourquoi. L'image est là comme une illustration, comme si elle n'avait pas elle-même une vie et une question. Parfois, elles sont, la juxtaposition des images n'est pas du tout explicitée. Vous avez des images porno à côté d'affiches de films, à côté de couvertures de disques. Bon, tout ça dans une espèce de fatras. Il n'y a pas de relation la plupart du temps entre le texte et les images. Les images sont là, le texte est là. Il y a évidemment des images absolument choquantes, mais il y a aussi un dispositif qui n'est pas seulement dans les images, mais qui est dans cette juxtaposition. Et notamment vers la fin, je ne sais pas si vous l'avez vu, parce que moi je l'ai lu du premier à la dernière page, je me suis payé la lecture en soulignant tout, j'ai lu toutes les légendes, on regarde toutes les images. Vers la fin, il y a une chose qui est assez intéressante, parce qu'il y a, il y a un texte qui est sur la question du viol et du métissage, et les illustrations, c'est Sidney Poitier et son épouse qui était blanche, Sammy Davis Jr. et son épouse qui était blanche, et d'autres, je ne me souviens plus, enfin donc des grands artistes noirs américains, et alors que le texte est en train de parler de viol. Et c'est, je parle de ces juxtapositions, comme ça, l'air de rien, je ne sais même pas si les personnes qui l'ont mise en étaient conscientes, mais le message est assez. Et après, il y a aussi des images, des photos où on voit des soldats français entraînant des jeunes femmes en Kabylie, donc on se doute de ce qui va se passer, ou des GI au Vietnam. Et à côté, il y a les grandes affiches de l'époque révolutionnaire. On voit les femmes en fusil, notamment la fameuse affiche où il y avait trois femmes avec le chapeau conique. Là, c'était Vietnam, Laos, Cambodge, avec le fusil. Et les deux sont à côté. Et donc, c'est la question de cette... En fait, il y a des tas de messages qui passent, qui sont des messages qui finissent par être... qui veulent être anti-racistes et qui sont aussi anti-anticoloniaux. Et sinon, je vous dis, tout le fatras d'images, de juxtaposition, c'est un livre extrêmement, absolument pas du tout scientifique. Bon, ça, c'est une... Mais aussi très pervers. Et puis qui, évidemment, offre une jouissance du regard à des gens qui aiment ce genre d'images. Mais plus que ça, vraiment, je dirais, à cause de cette juxtaposition, c'est beaucoup plus, je trouvais que c'était plus compliqué que ça. Il y a des tableaux qui n'ont rien à faire là. On ne sait pas pourquoi ils sont là. Il y a vraiment quelque chose de très, 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 très problématique dans le livre. Extrêmement problématique. Alors, est-ce que ça reflète... Je pense que ça reflète, justement, une impossibilité de penser ce qu'a été vraiment la colonie et la question sexuelle et raciale, sexuelle, raciale aux colonies. C'est-à-dire que ça reste dans une approche un peu positiviste, c'est-à-dire voilà ce qu'étaient les lois, voilà ce qui s'est passé, voilà les affiches qu'il y avait, voilà les films, les affiches de films, voilà les pochettes de disques, tout ça. Mais ça ne dit rien en fait. Et donc c'est d'une certaine manière un cache-sexe, si je peux me permettre, ce qui est justement ne montre pas ce que ça a été. Ne montre pas du tout ce que ça a été. À peine. C'est-à-dire, ça reste dans cette histoire, ils sont allés jouer leur fantasme aux colonies. qui, je trouve, est une explication assez pauvre, mais qui est une explication qui domine beaucoup chez les historiens. Et c'est pas, il n'y avait pas que des hommes hein, dans les directions de la direction. Il y avait des, je trouve, ils sont, ouais, c'est vraiment en fait une certaine misère, je répète, en fait, misère de la pensée. Sur la question, vraiment, c'est vraiment une misère de la pensée.
On va s'arrêter là. Oui. On va s'arrêter là. Je vous remercie. Alors, on vous remercie toutes et tous pour votre présence.
Merci.